Bonjour, mon nom est Tom Eden et je suis le réalisateur de la série « Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale » qui est une présentation du Berceau du Canada, rendue possible avec le support d'Anciens combattants Canada et de la ville de Gaspé. Dans ce second épisode de la série « Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale », Fabien Sinette discute de la période de 1941 et 1942, lorsque la ville se transforme en avant-poste militaire. Le tout a débuté de façon quand même assez modeste, avec l'arrivée des premiers navires, principalement des yachts privés modifiés pour les besoins de la cause, et la transformation du secteur de la pointe O'Hara, au cœur de la ville.
C'est sûr qu'avec les coupures que le gouvernement avait faites, il n'y avait pas tellement d'argent, puis là, construire des navires, ça prenait un peu un certain temps aussi. Alors, à ce moment-là, ils ont négocié avec des gens où il y avait des yachts, quand même des yachts de luxe, là, à l'époque. Et puis, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont accepté de contribuer à l'effort de la guerre. Alors, il y a eu, par exemple, les deux premiers, c'était l'Oracle puis le Vison. Le Vison, lui, a resté à Gaspé. En 1940, était le premier qui est rentré avant qu'il a commencé à prendre possession de la première base navale pour faire de la patrouille. Et après ça, il y a eu le Lynx, qui était la propriété de McDonald Tobacco. Après, il y a eu le Raccoon, qui était anciennement, ça s'appelait la Alonia. Ça, c'était un yacht beaucoup plus gros que les autres. Et puis qui avait été donné par le millionnaire Harry Van Cleef de New York. Alors c'était ça la défense qu'on avait en partant là, au printemps 1941. C'était pas fort. La seule chose, ils ont mis un petit canon en avant, ils ont mis une mitrailleuse en arrière pour essayer de convertir un peu, qui ressemblait un peu à un navire de guerre. Mais les grosses activités sont vraiment venues là, au début de 1941. À ce moment-là, le ministère de la Défense avait négocié avec la compagnie Robin Jones & Whitman pour réquisitionner des bâtiments et les quais sur la pointe O'Hara pour faire une base temporaire parce que là, il avait décidé de construire une vraie base qui devait être à Sandy Beach, en réalité. Et puis, en attendant, au cas des fois qu'il y a eu des attaques ennemies, fait qu'ils ont présenté cette base-là sur la pointe O'Hara, ils ont organisé ça. Et puis c'est là que les premiers bateaux, là, les premiers yachts, soit des donations ou des prêts, ont commencé à s'installer dans les... Il y avait deux, trois petits havres là, dans ce coin-là. Et puis ils ont pris les bâtiments qu'il y avait là, des Robins, pour faire le quartier général. Et puis, disons, là, tout a débuté là. Là, la Défense aussi, le ministère de la Défense lance aussi une grosse publicité et en mettant des affiches un peu partout, commencer à se préparer, là, à sensibiliser les gens au cas des fois qu'il y a eu une attaque, malgré que c'était vraiment pas parlé à l'époque, là, qu'il y a eu une possibilité, le gouvernement n'en parlait pas, là. Fait que les citoyens, les autres, ils disaient « c'est la guerre ici, ils veulent peut-être protéger le port ». Fait que là, ils commençaient à avoir des marins qui circulaient. Parce que la première base, là, sur la pointe O'Hara, il y avait quand même plusieurs marins qui étaient déjà installés là. Le quartier général était là. Ils ont loué aussi une grosse bâtisse qui ont fait le centre d'approvisionnement pour en fonction de la base qui sera construite à Sandy Beach. Sur la première base, on se situe encore sur la pointe O'Hara. En plus de ça, il y avait un poste de police militaire, il y avait un poste d'ambulance, il y avait des sentinelles un peu partout. Il y avait des sentinelles dans un périmètre quand même assez grand. Pouvoir avoir accès au magasin Robin, mais il reste tous les bâtiments en arrière, tu ne pouvais pas avoir accès. Et puis, ça fait que... La centrale électrique aussi, il y avait une sentinelle qui était là 24 heures par jour parce qu'il y avait peur des fois de sabotage. Il aura pu saboter la centrale électrique parce que ce qui arrivait à ce moment-là, c'est le pont, on n'avait même pas Lévis à Gaspé. Il était contrôlé par la centrale électrique. Alors, s'il y avait eu un sabotage, par exemple, automatiquement, le pont était saboté aussi. Là. Il n'y avait plus, de trafic maritime à l'intérieur du port. Alors ça, c'était important. Il a réquisitionné aussi à l'Hôtel-Dieu 50 lits et puis la salle d'opération au cas qu'il y aurait eu quelque chose qui allait arriver. Mais il reste quand même, il était quand même visionnaire assez pareil. Il était quand même préparé à d'éventuelles attaques de quelque sorte quand même. T'sais. Et puis il a réquisitionné aussi des espaces aussi dans la centrale téléphonique. Pour donner accès aux marins, ceux qui surtout qui en allaient dans les navires d'escorte, étaient plus souvent en mer, plus longtemps en mer que les autres. Fait qu'ils pouvaient appeler leurs parents, puis leurs blondes. Fait qu'il y avait quand même une cinquantaine de places aussi, réservées pour les autres. Puis quand ils venaient pour téléphoner, bien, il y avait toujours une sentinelle quand même qui était toujours là pour pas qu'il y ait de grabuges, là, ou quoi que ce soit. Alors, c'était quand même des services là, intéressants là, qui s'installaient. Et puis, après ça, ils ont construit un YMCA. YMCA, ben, c'était surtout pour les militaires, l'armée. Alors, ça, c'était un plus aussi pour divertir ces gens-là, parce que YMCA a surtout servi après l'inauguration de la base navale à Sandy Beach.
En même temps que le secteur du centre-ville de Gaspé se voyait transformé, une base beaucoup plus imposante était en construction dans le secteur de Sandy Beach.
Et puis, on a commencé à construire la base Sandy Beach au début mai 1941. Et puis, ils l'ont nommé Fort Ramsey. Et la base navale Sandy Beach a été inaugurée le 1er mai 1942. Et puis, ils ont commencé à construire toutes les baraques, puis tout ça pour garder les militaires. Puis, c'est un gros village, là. Après que la base a ouvert, il y a, je pense, une vingtaine de Fairmiles qui est arrivé. Il y avait aussi des corvettes, des balayures de mines. Il y avait des avions, parce qu'ils avaient construit un gros hangar d'avions. Il y avait des hydravions. Il y avait deux types d'avions, je pense, les Hawks et les Catalina.
Âgé à l'époque d'à peine 10 ans, Fabien Sinette, un garçon fasciné par toute l'activité militaire qu'il observait tout autour de lui, s'est vu offrir une opportunité par son frère, qu'il ne pouvait laisser passer.
J'avais eu l'occasion d'y aller. Bon, il y avait un de mes frères à l'époque, pas le plus vieux, là, mais le deuxième. Il n'était pas encore dans l'armée, lui. Il travaillait pour les DVS, puis il faisait la livraison à la base navale. À ce temps-là, c'était avec un cheval et une charrette, là. Fait qu'il m'avait demandé une journée, il dit, je fais une livraison demain matin à Fort Ramsey, serais-tu intéressé à venir avec moi? Mais je dois, c'est un cadeau, hein? Fait qu'arrivé, c'est sûr qu'il fallait un passeport pour rentrer, mais lui, il avait son passeport par la compagnie Davis. Fait qu'on avait rentré, puis là, il m'a fait marcher un petit peu, pas marcher, mais c'est-à-dire circuler un peu. Et c'était des rues, c'était un village. Donc, au lieu d'avoir des noms, c'était des numéros de rues. Mais c'était vraiment un village. J'étais impressionné de voir tous ces avions-là, puis tout le déploiement des navires. Enfin, ça a été une belle journée là, pour moi, là, à ce moment-là.
En plus des installations à la pointe O'Hara et au fort Ramsey, un impressionnant système défensif a été déployé pour protéger la baie de Gaspé. M. Sinette nous décrit les installations de Fort Péninsule, Fort Alderman, Fort Prévelle, ainsi qu'un filet anti-sous-marin que les gens de la région connaissent sous le nom de « boom defense ».
Ils ont décidé à ce moment-là aussi d'installer un filet métallique qui reliait la pointe Sandy Beach et Péninsule, qui est canon, parce qu'ils ont installé les canons là, en même temps, en 1941. Tout ça est en 1941. Toute la fortification s'est vraiment faite en 1941. Et puis, ce filet-là devait protéger au cas qu'il y aurait eu des sous-marins pour pas qu'ils rentrent à l'intérieur de la baie de Gaspé. Parce qu'il fallait aussi réaliser que deux sous-marins qui auraient pu rentrer le soir, qui avaient quoi, 60-65 marins dans chaque sous-marin, Gaspé n'étant pas armé, il aurait pu prendre le village. ça aurait pu arriver. Là. On n'avait aucune fortification à Gaspé. Même l'armée de réserve était diminuée énormément parce que les gens qui étaient en forme puis qui voulaient s'enrôler dans l'armée active étaient partis de Gaspé, ils n'étaient plus là. Là. C'est partant de là que ça s'est appelé le boom de fin, ça pointe Sanubé, tu sais. Parce que c'est des estacades, là, en réalité. C'est le même principe qu'un boom de bois de bio, par exemple, tu sais, qui entend la drave, là. C'est pour ça qu'on aimait ça, boom de fin, ça a toujours resté boom de fin, ça. Et pour ouvrir le filet, il y avait un bateau qui était là 24 heures par jour. Premier bateau, c'était pour faire identifier les navires qui voulaient rentrer à l'intérieur. Parce qu'il y avait quand même un gros trafic, là. La base navale était construite, il fallait qu'ils passent par le sous-marin. Fait que ces gens-là ben, avaient un code là, alors pour rentrer, puis pour s'identifier. Puis si il n'était pas identifié, il le donnait 20 secondes, puis il ouvrait le feu là, des canons de péninsule là, envers les navires. Là. Fait qu'il se dépêchait à s'identifier. Il n'avait pas le choix, là. Puis l'autre navire, lui, c'était pour ouvrir, il y avait comme une barrière pour ouvrir, rentrer les bateaux. Le premier bateau, lui, le responsable dans ça, c'était le lieutenant Percy Roberts. C'était un vétéran de la Première Guerre de la Marine. Et puis le deuxième bateau, lui, c'était le lieutenant George Allard, qui s'est installé à Gaspé après. Les canons, eux autres, ont été placés aussi en 1941. Il y a trois canons. Le premier canon, c'était à Fort Prévelle. Fait que c'était un gros canon de 10 pouces de diamètre, de longue portée. C'était le plus gros canon qu'il y avait au Canada à l'époque. Le Canada n'était pas tellement fortifié de toute façon, là, en 1941-1942. Alors, à ce moment-là, il y avait quand même un poste de militaire là aussi. Mais le canon qu'il y a là aujourd'hui, c'est pas le vrai canon, là. Parce que le vrai canon, ils l'ont démantelé pour la ferraille après la guerre, là, comme il a démantelé bien des choses. Là. Puis là, ils ont mis ce canon-là, qui est symbolique, là, mais ils ont gardé quand même les infrastructures. Après ça, ils ont fortifié aussi Péninsule, qu'ils ont appelé Fort Péninsule. Là, ils ont installé les canons, les vieux canons de la guerre 14-18. Et puis, ils ont installé des mitrailleuses, des Vickers, des Brent, puis un gros réflecteur de 60 pouces qui pouvait refléter quand même assez loin. C'était pour défendre ce coin-là aussi, parce qu'ils auraient pu débarquer sur la plage d'Arleman, par exemple. Alors, ils protégeaient un peu là, cette plage-là en faisant ça. Et puis, c'était quand même des points, là, où tu avais le premier, tu avais Prévelle, Prévelle, les autres, c'était plus loin au large. Et pour Alderman, c'était plus proche, sur le bord de rive. Alors, c'est pour ça que les canons étaient moins gros pour fortifier ça. Mais quand ça venait à la péninsule, là, ils ont mis deux canons quand même assez gros, là, de 4,5. Enfin, c'est ça qui protégeait le filet. Les autres, ils ont mis deux... Il y a un projecteur en haut, un projecteur en bas. En bas de la falaise, fait que ça pouvait éclairer là, l'entrée du filet facilement. Là. Fait que c'était bien, c'était vraiment bien. Là. Puis il y avait quand même, de l'autre bord de la route, là, ils ont installé un campement, 225 militaires, c'était des militaires, ceux qui avaient là, là. Et puis, ça fait qu'ils étaient là en permanence, ces autres, là, ces 225-là. Parce que chaque canon, ça prenait quand même du monde aussi en permanence aussi. Et puis, Fort Alderman, il y avait, je pense, c'est 35-40 militaires, pas plus, qu'il y avait là. Fait que c'était quand même bien fortifié, pareil. Tu sais, c'est quand même... Alors, tout ça s'est fait dans l'année 41. La 41 était une année occupée, là.
Ce deuxième épisode de la série Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale est une présentation du Berceau du Canada, avec la collaboration d'anciens combattants Canada et de la ville de Gaspé.